Les mémoires d'un âne par la comtesse de Ségur, deuxième cassette, deuxième face, page 56. D'un élan vigoureux, je dépassai mon rival, au moment même où il me saisit la queue. La douleur manqua de me faire tomber, mais l'honneur de vaincre me donna le courage de m'arracher à sa dent en y laissant un morceau de ma queue. Le désir de ma vengeance me donna des ailes. Je courus avec une telle vitesse que j'arrivai au but non seulement le premier, mais laissant loin derrière moi tous mes rivaux. J'étais haletant, épuisé, mais heureux et triomphant. J'écoutais avec bonheur les applaudissements des milliers de spectateurs qui bordaient la prairie. « Bravo, vive Cadichon, c'est lui qui a gagné !» Je pris un air vainqueur et je revins fièrement au pas jusqu'à la tribune du maire qui devait donner le prix. La bonne femme Tranchet s'avança vers moi, me caressa et me promit une bonne mesure d'avoine. Elle tendait la main pour recevoir la montre et le sac d'argent que le maire allait lui remettre. Lors Sandré et Jeannot accoururent en criant. « Arrêtez, monsieur le maire, arrêtez! C'est pas juste ça, personne ne connaît cet âne. Il n'appartient pas plus à la mère Tranchet qu'au premier venu. Cet âne ne compte pas. C'est le mien qui est arrivé, le premier, avec celui de Jeannot. La montre et le sac doivent être pour nous. »
« Est-ce que la mère Tranchet n'a pas mis sa pièce au sac de course ?»«
Si fait, monsieur le maire, mais... »«
Quelqu'un s'y est-il opposé quand elle y a mis ?»
Non, monsieur le maire, mais...
Est-ce qu'au moment du départ, vous vous y êtes opposé?
Non, monsieur le maire, mais...
L'âme de la mère Tranchet a donc bien réellement gagné montre et sac.
Le maire parut indécis. Quand je dis qu'il hésitait, je saisis d'un mouvement brusque la montre et le sac avec mes dents et je les déposai dans les mains de la mère Tranchet qui, inquiète et tremblante, attendait la décision du maire. Cette action intelligente mit les rieurs de notre côté et me valut des tonnerres d'applaudissements.
Bravo, bravo, c'est le plus malin, vive Cadichon.
Voilà, voilà la question tranchée par le vainqueur en faveur de la mère Tranchet, dit le maire. Messieurs du conseil municipal, allons délibérer à table si j'étais dans mon droit en laissant faire justice par un âne. Mes amis, ajouta-t-il malicieusement en regardant André Jeannot, je crois que le plus âne de nous n'est pas celui de la mère Tranchet.
Bravo, bravo monsieur le maire, criait-on de tous les côtés.
Et tout le monde de rire, excepté André et Jeannot qui s'en allèrent en me montrant le poing. Et moi donc, étais-je content? Non, mon orgueil se révoltait. Je trouvais que le maire avait été insolent à mon égard en croyant injurier mes ennemis quand il les avait traités d'ânes. C'était ingrat, c'était lâche. J'avais eu du courage, de la modération, de la patience, de l'esprit, et voilà quelle était ma récompense. Après m'avoir insulté, on m'abandonnait. La mère Tranchet, même, dans sa joie d'avoir une montre et 2 700 francs, oubliait son bienfaiteur et ne pensait plus à sa promesse de me régaler d'une bonne mesure d'avoine. Elle partait avec la foule sans me donner la récompense que j'avais pourtant si bien gagnée. Chapitre 10. Les bons maîtres. Je restais donc seul dans le pré. J'étais triste, ma queue me faisait souffrir. Je me demandais si les âmes n'étaient pas meilleures que les hommes, lorsque je sentis une main douce me caresser et j'entendis une voix non moins douce me dire « Pauvre âne, on a été méchant pour toi. Viens, pauvre bête, viens chez grand-mère. Elle te fera nourrir et soigner mieux que tes méchants maîtres. Pauvre âne, comme tu es maigre. » Je me retournai, je vis un joli petit garçon de 5 ans. Sa sœur, qui paraissait âgée de 3 ans, accourait avec sa bonne.
« Viens, qu'est-ce que tu tu dis à ce pauvre âne ?
Je lui dis de venir demeurer chez grand-mère. Il est tout seul, pauvre bête.
Oui, va, prends-le. Attends, je vais monter à dos. Ma bonne, à dos de l'âne.
La bonne mit la petite fille sur mon dos. Jacques voulait me mener, mais je n'avais pas de bride. Attendez, ma bonne, dit-il, je vais lui attacher mon mouchoir au cou. Le petit Jacques essaya, mais j'avais le cou trop gros pour son petit mouchoir. Sa bonne lui donna le sien qui était encore trop court.
Comment faire, ma bonne ? Dit Jacques, prêt à pleurer.
Allons au village, demandez un licou ou une corde. Viens, ma petite Jeanne, descends le dessus de l'âne. Non, je ne veux pas descendre, je veux rester sur l'âne, je veux qu'il me mène à la maison. Mais nous n'avons pas de licou pour le faire avancer. Tu vois bien qu'il ne bouge pas plus qu'un âne de pierre.
Attendez, ma bonne, vous allez voir. D'abord, je sais qu'il s'appelle Cadichon. La mère Tranchet me l'a dit. Je vais le caresser, l'embrasser, je crois qu'il me suivra. Jacques s'approcha de mon oreille et me dit tout bas en me caressant.
Marche, mon petit Cadichon, je t'en prie, marche.
La confiance de ce bon petit garçon me toucha. Je remarquai avec plaisir qu'au lieu de demander un bâton pour me faire avancer, il n'avait songé qu'aux moyens de douceur et d'amitié. Aussi, à peine avait-il achevé sa phrase et sa petite caresse que je me mis en marche.
« Vous voyez, ma bonne, il me comprend, il m'aime !»
s'écria Jacques rouge de joie, les yeux brillants de bonheur et courant en avant pour me montrer le chemin.
Est-ce qu'un âne peut comprendre quelque chose? Il marche parce qu'il s'ennuie ici.
Mais ma bonne, vous voyez qu'il me suit.
Parce qu'il sent le pain que tu as dans ta poche.
Vous croyez qu'il a faim, ma bonne?
Probablement, vois comme il est maigre.
C'est vrai, pauvre Cadichon. Et moi qui ne pensais pas à lui donner mon pain.
Et tirant aussitôt de sa poche le morceau que la bonne y avait mis pour son goûter, il me le présenta. J'avais été offensé de la mauvaise pensée de la bonne et je fus bien aise de lui prouver qu'elle m'avait mal jugé, que ce n'était pas par intérêt que je suivais Jacques et que je portais Jeanne sur mon dos, mais par complaisance, par bonté. Je refusai donc le pain que m'offrait le bon petit Jacques et me contentai de lui lécher la main.
« ma bonne, il me baise la main !» s'écria Jacques. « Il ne veut pas de mon pain !» Mon cher petit Cadichon, comme je t'aime.
Vous voyez bien, ma bonne, qu'il me suit parce qu'il m'aime. Ce n'est pas pour avoir du pain.
Tant mieux pour toi si tu crois avoir un âne comme on n'en voit pas. Un âne modèle. Mais je sais que les ânes sont tous entêtés et méchants. Je ne les aime pas.
Oh, ma bonne, le pauvre Cadichon n'est pas méchant. Voyez comme il est bon pour moi.
Nous verrons bien si cela durera.
N'est-ce pas, mon Cadichon, tu seras toujours bon pour moi et pour Jeanne, dit le petit Jacques en me caressant.
Je me tournai vers lui et le regardai d'un air si doux qu'il le remarqua malgré sa grande jeunesse. Puis je me tournai vers la bonne et lui lançai un regard furieux qu'elle vit bien aussi, car elle dit aussitôt.
Comme il a l'œil mauvais, il a l'air méchant, il me regarde comme s'il voulait me dévorer.
« Oh, ma bonne, dit Jacques, comment pouvez-vous dire cela ? Il me regarde d'un air doux, comme s'il voulait m'embrasser. »
Tous deux avaient raison, et moi je n'avais pas tort. Je me promis d'être excellent pour Jacques, Jeanne et les personnes de la maison qui seraient bonnes pour moi. Et j'eus la mauvaise pensée d'être méchant pour ceux qui me maltraiteraient ou qui m'insulterait comme l'avait fait la bonne. Ce besoin de vengeance fut plus tard la cause de mes malheurs. Tout en causant, nous marchions toujours et nous arrivâmes bientôt au château de la grand-mère de Jacques et de Jeanne. On me laissa à la porte où je restai comme un âne bien élevé, sans bouger, sans même goûter l'herbe qui bordait le chemin sablé. 2 minutes après, Jacques reparut traînant après lui sa grand-mère. « Venez voir, grand-mère, venez voir comme il est doux, comme il m'aime. Ne croyez pas ma bonne, je vous en prie, » dit Jacques en joignant les mains.
Grand-mère, croyez pas, je vous en prie, dit Jeanne. Voyons, dit la grand-mère en souriant, voyons ce fameux âne.
Et s'approchant de moi, elle me toucha, me caressa, me prit les oreilles, mit sa main à ma bouche, sans que je fisse mine de la mordre, ou même de m'éloigner.
Mais il a en effet l'air fort doux. Que disiez-vous donc, Émilie, qu'il avait l'air méchant?
N'est-ce pas, grand-mère? N'est-ce pas qu'il est bon, qu'il faut le garder?
Cher petit, je le crois très bon. Mais comment pouvons-nous le garder, puisqu'il n'est pas à nous? Il faudra le ramener à son maître.
Il n'a pas de maître, grand-mère.
Bien sûr, il n'a pas de maître, grand-mère, dit Jeanne, qui répétait tout ce que disait son frère. Comment pas de maître? C'est impossible.
Si, grand-mère, c'est très vrai, la mère Tranchet me l'a dit.
Alors, comment a-t-il gagné le prix de la course pour elle, puisqu'elle l'a pris pour courir? C'est qu'elle l'a emprunté à quelqu'un?
Non, grand-mère, il est venu tout seul. Il a voulu courir avec les autres. La mère Tranchet a payé pour prendre ce qu'il gagnerait, mais il n'a pas de maître. C'est Cadichon, l'âne de la pauvre Pauline qui est morte. Ses parents l'ont chassé et il a vécu tout l'hiver tout seul dans la forêt.
Cadichon, le fameux Cadichon qui a sauvé de l'incendie sa petite maîtresse. Ah, je suis bien aise de le connaître. C'est vraiment un âne extraordinaire et admirable.
Et tournant tout autour de moi, elle me regarda longtemps. J'étais fier de voir ma réputation si bien établie. Je me rengorgeais, j'ouvrais les narines, je secouais ma crinière.
Comme il est maigre, pauvre bête, il n'a pas été récompensé de son dévouement, dit la grand-mère, d'un air sérieux et d'un ton de reproche. Gardons-le, mon enfant, gardons-le, puisqu'il a été abandonné, chassé par ceux qui auraient dû le soigner et l'aimer. Appelle le cocher Boulant, je le ferai mettre à l'écurie avec une bonne litière.
Jacques, enchanté, courut chercher Boulant, B-O-U-L-A-N-D, qui arriva tout de suite.
Boulant, voici un âne que les enfants ont ramené. Mettez-le à l'écurie et donnez-lui à boire et à manger.
Faudra-t-il le remettre à son maître ensuite?
Non, il n'a pas de maître. Il paraît que c'est le fameux Cadichon qui a été chassé après la mort de sa petite maîtresse. Il est venu au village et les petits-enfants l'ont trouvé abandonné dans le pré. Ils l'ont ramené et nous le garderons.
Oui, madame, faites bien de le garder. Il n'a pas son pareil dans tout le pays. On m'a raconté de lui des choses vraiment étonnantes. On dirait qu'il entend et qu'il comprend tout ce qu'il dit. Madame va voir. Viens, mon Cadichon, viens manger ton picotin d'avoine. Je me retournai aussitôt et je suivis Boulant qui s'en allait.
C'est étonnant, dit la grand-mère. Il a vraiment compris.
Elle rentra à la maison. Jacques et Jeanne voulurent m'accompagner à l'écurie. On me plaça dans une stalle. J'avais pour compagnon deux chevaux et un âne. Boulant, aidé de Jacques, me fit une belle litière. Il alla me chercher une mesure d'avoine.
Encore, encore, Boulant, je vous en prie, dit Jacques. Il lui en faut beaucoup, beaucoup. Il a tant couru.
Mais monsieur Jacques, si vous lui donnez trop d'avoine, vous le rendrez trop vif. Vous ne pourrez pas le monter, ni mademoiselle Jeanne non plus.
Oh, il est si bon, répondit Jacques. Nous pourrons le monter tout de même.
On me donna une énorme mesure d'avoine et l'on mit près de moi un seau plein d'eau. J'avais soif, je commençai par boire la moitié du seau, puis je croquai mon avoine, en me réjouissant d'avoir été emmené par ce bon petit Jacques. Je fis encore quelques réflexions sur l'ingratitude de la mère Tranchet, je mangeai ma botte de foin, je m'étendis sur la paille, je me trouvai couché comme un roi, et je m'endormis. Chapitre 11. Cadichon malade. Le lendemain, je n'eus pas d'autre occupation que de promener les enfants pendant une heure. Jacques venait me donner lui-même mon avoine, et malgré les observations de Boulan, le cocher, il m'en donnait de quoi nourrir 3 ânes de ma taille. Je mangeais tout. J'étais content. Mais le 3e jour, je me sentis mal à l'aise. J'avais la fièvre, je souffrais de la tête et de l'estomac, et je ne pus manger ni avoine ni foin. Je restai étendu sur ma paille. Quand Jacques vint me voir, « Tiens, dit-il, Cadichon est encore couché. Allons, mon Cadichon, il est temps de te lever. Je vais te donner ton avoine. » Je cherchais à me lever, mais ma tête retomba lourdement sur la paille. « Oh, mon Dieu, Cadichon est malade !» s'écria le petit Jacques. « Boulan, Boulan, venez vite, Cadichon est malade !»«
Tiens, qu'est-ce qu'il a donc ?» reprit Boulan. « Il a pourtant eu son déjeuner de grand matin. »
Il s'approcha de la mangeoire, regarda dedans et dit « Il n'a pas touché à son avoine, c'est qu'il est malade. » « Il a les oreilles chaudes, ajouta-t-il en me prenant les oreilles, et son flanc bas. »«
Qu'est-ce que ça veut dire, Boulan ?» s'écria le pauvre Jacques alarmé.
« Cela veut dire, monsieur Jacques, que Cadichon a la fièvre. Vous l'avez trop nourri et il faut faire venir le vétérinaire. »
Qu'est-ce que c'est qu'un vétérinaire ?
Reprit Jacques de plus en plus effrayé. C'est un médecin de chevaux. Voyez-vous, monsieur Jacques, je vous le disais bien, ce pauvre âne a eu de la misère. Il a souffert cet hiver, cela se voit bien, à son poil et à sa maigreur. Puis, il s'est échauffé à courir très fort le jour de la course des ânes. Il aurait fallu lui donner peu d'avoine et de l'herbe pour le rafraîchir. Et vous lui donniez de l'avoine tant qu'il en voulait.
« Oh mon Dieu, mon pauvre Cadichon, il va mourir. C'est de ma faute.
» Non, monsieur Jacques, il ne va pas mourir pour cela. Mais il va falloir le mettre à l'herbe et le saigner.
Ça va lui faire mal de le saigner, reprit Jacques, pleurant toujours.
Pour ça non, vous allez voir. Je vais le saigner tout de suite en attendant le vétérinaire.
Oh, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir, s'écria Jacques en se sauvant. Je suis sûr que ça lui fera très mal.
Et il partit en courant. Pendant ce temps, Boulan prit sa lancette, une espèce de petit couteau, me la posa sur une veine du cou, la frappa d'un petit coup de marteau et le sang jaillit aussitôt. À mesure que le sang coulait, je me sentais soulagé. Ma tête n'était plus si lourde, je n'étouffais plus. Je fus bientôt en état de me relever. Boulan arrêta le sang, me donna de l'eau de son et une heure après me lâcha dans un pré. J'allais mieux, mais je n'étais pas guéri. Je mis près de 8 jours à me remettre. Pendant ce temps, Jacques et Jeanne me soignèrent avec une bonté que je n'oublierai jamais. Ils venaient me voir plusieurs fois par jour. Ils me cueillaient de l'herbe afin de m'éviter la peine de me baisser pour la brouter. Ils m'apportaient des feuilles de salade, du potager, des choux, des carottes. Ils me faisaient rentrer eux-mêmes tous les soirs dans mon écurie et je trouvais ma mangeoire pleine des choses que j'aimais le mieux, des épluchures de pommes de terre avec du sel. Un jour, ce bon petit Jacques voulut me donner son oreiller parce que, disait-il, j'avais la tête trop basse quand je dormais. Une autre fois, Jeanne voulut me couvrir avec le couvre-pied de son lit pour me tenir chaud la nuit. Un autre jour, ils me mirent des morceaux de laine autour des jambes de crainte que je n'eusse froid. J'étais désolé de ne pas pouvoir leur témoigner ma reconnaissance, mais j'avais le malheur de tout comprendre et de ne pouvoir rien dire. Je me rétablis à la fin et je sus qu'on projetait une partie d'âne dans la forêt avec les cousins et cousines. Chapitre 12. Les voleurs. Tous les enfants se trouvaient réunis dans la cour. beaucoup d'ânes avaient été rassemblés de tous les villages voisins. Je reconnus presque tous ceux de la course. Celui de Jeannot me regardait d'un air farouche, tandis que je lui lançais des regards moqueurs. La grand-mère de Jacques avait chez elle presque tous ses petits-enfants. Camille, Madeleine, Élisabeth, Henriette, Jeanne, Pierre, Henri, Louis et Jacques. Les mamans de tous ces enfants devaient venir avec eux à Ânes, tandis que les papas suivraient à pied, armés de baguettes pour faire marcher les paresseux. Avant de partir, on se querella un peu comme il arrive toujours à qui prendrait le meilleur âne. Tout le monde voulait m'avoir, personne ne voulait me céder, de sorte qu'on résolut de me tirer au sort. Je tombai en partage au petit Louis, cousin de Jacques. C'était un excellent petit garçon, et j'aurais été très content de mon sort si je n'avais pas vu le pauvre petit Jacques essuyer en cachette ses yeux pleins de larmes. Chaque fois qu'il me regardait, ses larmes débordaient. Il me faisait de la peine, mais je ne pouvais pas le consoler. Il fallait bien d'ailleurs qu'il apprît, comme moi, la résignation et la patience. Il finit par prendre son parti et monta son âne en disant au cousin Louis : « Je resterai toujours près de toi, Louis. Ne fais pas trop galoper Cadichon pour que je ne reste pas en arrière. » Ben, « et pourquoi resterais-tu en arrière ?» dit Louis. « Pourquoi ne galoperais-tu pas comme moi ?»« Mais parce que Cadichon galope plus vite que tous les ânes du pays. »« Comment sais-tu cela ?» demanda Louis. « Je les ai vus courir pour gagner le prix le jour de la fête du village. » »« Et Cadichon les a tous dépassés. » Louis promit à son cousin qu'il n'irait pas trop vite. Et tous deux partirent au trot. Mon camarade n'était pas mauvais, de sorte que je n'eus pas à me gêner beaucoup pour ne pas le dépasser. Les autres nous suivaient tant bien que mal. Nous arrivâmes ainsi jusqu'à une forêt où les enfants devaient voir de très belles ruines d'un vieux couvent et d'une ancienne chapelle. Elles avaient une mauvaise réputation dans le pays. On n'aimait pas y aller autrement qu'en nombreuse compagnie. La nuit, disait-on, des bruits étranges semblaient sortir de dessous les décombres. Des gémissements, des cris, des cliquetis de chaînes. Plusieurs voyageurs qui s'étaient moqués de ces récits et qui avaient voulu aller visiter seuls ces ruines n'en étaient pas revenus et on n'en avait jamais entendu parler depuis. Quand tout le monde fut descendu d'âne et qu'on nous eut laissé paître la bride sur le cou, les papas et les mamans prirent leurs enfants par la main, leur défendant de s'écarter et de rester en arrière. Je les regardais avec inquiétude s'éloigner et se perdre dans ces ruines. Je m'éloignai aussi de mes camarades et me mis à l'abri du soleil sous une arche à moitié ruinée qui se trouvait sur une hauteur adossée au bois et un peu plus loin que le couvent. J'y étais depuis un quart d'heure à peine, lorsque j'entendis du bruit près de l'arche. Je me blottis dans une épaisseur du mur ruiné, d'où je pouvais voir au loin sans être vu. Le bruit, quoique sourd, augmentait. Il semblait venir de dessous terre. Je ne tardai pas à voir paraître une tête d'homme qui sortait avec précaution d'entre les broussailles. « Rien !» dit-il tout bas. Après avoir regardé autour de lui. Personne. Vous pouvez venir, camarades, que chacun prenne un de ses ânes et l'emmène lestement. Il se rangea pour donner passage à une douzaine d'hommes auxquels il dit encore à mi-voix. Si les ânes se sauvent, ne vous amusez pas à courir après. Vite et pas de bruit, c'est la consigne. Les hommes se glissèrent le long du bois, très fourrés dans cette partie de la futaie. Ils marchaient avec précaution, mais vite. Les ânes, qui cherchaient l'ombre, broutaient de l'herbe près de la lisière du bois. Un signal donné, chacun des voleurs prit un des ânes par la bride et l'attira dans le fourré. Ces ânes, au lieu de résister, de se débattre, de braire pour donner l'éveil, se laissèrent emmener comme des imbéciles. dit-il, un mouton n'eût pas été plus bête. 5 minutes après, les voleurs arrivaient au fourré qui se trouvait au pied de l'arche. On fit entrer mes camarades un à un dans les broussailles où ils disparurent. J'entendis le bruit de leurs pas sous terre. Puis tout rentra dans le silence. Voilà l'explication des bruits qui effrayent le pays, pensai-je. Une bande de voleurs est cachée dans les caves du couvent. Il faut les faire prendre. Mais comment ? Voilà la difficulté. Je restais caché sous ma voûte, d'où je voyais les ruines en entier et le pays tout autour, et je n'en sortis que lorsque j'entendis les voix des enfants qui cherchaient leurs armes. J'accourus pour les empêcher d'approcher de cette arche et des broussailles qui cachaient si bien l'entrée des souterrains qu'il était impossible de l'apercevoir. « Voici Cadichon !» s'écria Louis. « Mais où sont les autres ?» dirent à la fois tous les enfants.
« Ils doivent être ici près, » dit le papa de Louis. « Cherchons-les.
Nous ferions bien de les chercher du côté du ravin. » « Derrière l'arche que je vois là-bas, » dit le père de Jacques, « l'herbe y est belle, ils auront voulu en goûter. » Je tremblais en songeant au danger qu'ils allaient courir, et je me précipitai du côté de l'arche pour les empêcher de passer. Ils voulurent m'écarter, mais je leur résistai avec tant d'insistance, leur barrant le passage de quelque côté qu'ils voulussent aller, que le papa de Louis arrêta son beau-frère et lui dit, « Écoutez, mon cher, l'insistance de Cadichon a quelque chose d'extraordinaire. Vous savez ce qu'on nous a raconté de l'intelligence de cet animal. Écoutons-le, croyez-moi, et retournons sur nos pas. D'ailleurs, il n'est pas probable que tous les ânes aient été de l'autre côté des ruines. » « Vous avez d'autant plus raison, mon cher, » répondit le papa de Jacques, « que je vois l'herbe foulée près de l'arche, comme si elle avait été récemment piétinée. Je croirais assez que nos ânes ont été volés. » Ils retournèrent vers les moments qui avaient empêché les enfants de s'écarter. Je les suivis, le cœur léger, et content de leur avoir peut-être évité un terrible malheur. Ils causèrent bas. Je les vis se mettre tous en groupe. On m'appela. Comment allons-nous faire ? Dit le papa de Louis. Un seul âne ne peut pas porter tous les enfants. Eh bien, mettons les plus petits sur Cadichon, les grands suivront avec nous, dit un autre papa. Bien, mon Cadichon, voyons combien tu pourras emporter, dit le papa d'Henriette. On commença par mettre Jeanne devant comme la plus petite. Puis Henriette, puis Jacques, puis Louis. Ils n'étaient lourds ni les uns ni les autres. Je fis voir, en prenant le trot, que je les portais bien tous les quatre sans fatigue. « Hola ! Oh, Cadichon !» s'écrièrent les papas. « Tout doucement pour que nous puissions tenir nos gamins. » Je me mis au pas et je marchais entouré de près par les enfants plus grands et les mamans. Les papas suivaient pour rallier les traînards. Fin de la deuxième phase de la deuxième cassette. Page 78, Les mémoires d'un âne, par la comtesse de Ségur.